Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Popcorn. Aujourd'hui, on se retrouve avec Willy, Maël, Éléonore et Manon. Bonjour à vous quatre.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir. Toujours la même blague, hein, ça, on ne change jamais. Hein.
Non, c'est juste que je suis inversé.
On va parler foot, on va parler de pédopornographie et on va parler avec Éléonore et Manon de...
Expérience encore.
Des expériences
macabre,
encore.
Parce que c'est trop bien.
Expérience macabre. Eh bien, on commence donc avec Willy pour parler foot, des matchs, du classement, etc., etc. À toi, Willy.
Alors, il y a eu Paris-Toulouse. Paris a gagné comme d'hab.
Ah, comme d'hab, oh, ouais.
2-1 face à la Toulouse. Marseille a joué contre Nice. Nice a gagné 3-1. Marseille a été surpris par Nice. Lyon, ils ont affronté 3. Lyon a gagné 3-1. Il y a eu Lens-Brest, match nul 1-1. Rennes-Lille, 3-1 pour Lille. Clermont-Monaco, il y a eu 2-0 pour Monaco. Lorient-Angers, il y a eu 0-0. Auxerre-Reims, il y a eu 0-0 aussi. Ajaccio-Nantes, 2-0 pour Nantes. Strasbourg a affronté Montpellier. Strasbourg a gagné 2-0. Les prochains matchs, Nice-Ajaccio, Monaco-Paris, Clermont-Marseille. Et après, les meilleurs buteurs jusqu'au...
Ah, le classement meilleur buteur, ok.
Florian Balogueux.
Florian Balogueux, ouais. Qui est dans quel club, lui?
Reims.
Ouais.
Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 13 buts. Alexandre Lacazette avec 13 buts, Olympique Lyonnais. Monaco, Bren Mbolo, 12 buts avec Monaco. Terem Mofi avec Nice, 12 buts. Neymar avec Paris, 12 buts.
Ok, donc il y a beaucoup de Parisiens. Donc dans les affiches, les samedi et dimanche en Ligue 1. En tout cas, nous avons donc un choc à 17h avec Monaco-PSG. Et après, dimanche, pour les gros matchs, si j'arrive à y aller, c'est bon. Nous avons donc Toulouse-Rennes, qui est pas mal. Après, nous allons avoir Montpellier-Brest, Reims 3 à voir aussi, parce que Reims, bonne équipe. Et surtout, le match de dimanche soir, Willy, tu n'en as pas parlé, à 20h45, une équipe qui commence par un L et l'autre aussi. L'un est au sud de la France et un est au nord de la France.
À Lille.
Non, l'autre, bah, c'est à pas Lille. Il y a qui? Il y a...
À Lens.
Donc Lens qui affronte une équipe du Rhône-Alpes qui n'est autre que...
Lyon.
Lyon.
Les plus nuls.
Donc là, choc du dimanche soir, 20h45. Très, très beau match. Oui, Coupe de France. Donc aujourd'hui, ouais, il y a de la Coupe de France. On est diffusé à 16h. Donc si vous écoutez, à 18h15. Beaucoup de matchs à 18h15. Angers-Nantes, Auxerre-Rodez, Lyon-Lille, Paris-FC-Annecy, Toulouse-Reims, Vierzon-Grenoble et à 21h10, Marseille-PSG.
Et aussi le classement de la Ligue 1.
Et on fait le classement de la Ligue 1. Allez, le classement de la Ligue 1 pour terminer.
Paris est toujours premier avec 54 points.
Pourquoi tu dis toujours? Pourquoi Paris toujours? Bah évidemment Paris, tout ça. Ça veut dire quoi ça, Louis? Vas-y, vas-y.
Marseille deuxième avec 46 points. Lens, pareil, avec 46 points. Monaco avec 44 points. Rennes avec 40 points. Lille avec 38 points. Lorient avec 36 points. Nice avec 34 points. Lyon avec 32 points. Reims avec 30 points, Clermont avec 30 points, Toulouse avec 29 points, Nantes avec 25 points, Brest avec 20 points, Montpellier aussi 20 points, Troyes 19 points, et Strasbourg 18, Ajaccio aussi, et 14 Auxerre et 9 points pour...
Pour Angers. Ouais. Ouais, Angers c'est dur, donc peut-être la Ligue 2, hein. Je pense que ça y est, c'est acté. Hein.
Non.
Parce que là...
Ils peuvent revenir.
Ouais, bien sûr.
Peut-être avant-dernier.
Parce que là, calendrier, nous sommes des... on va entamer du coup la journée 23 ce week-end. Donc, ça va être dur. Il va falloir faire un peu le... De toute façon, on va faire nos pronostics Coupe de France quand Willy... Alexis va revenir. On termine là-dessus sur le foot. On enchaîne avec la pédopornographie avec Maël.
Alors, la pédopornographie, si vous savez pas, en fait, il y a deux types de pédopornographie. Il y a la pédopornographie où on montre des jeunes en train de... Voilà. Et il y a la pédopornographie qui est montrée... En fait, il y a la pédopornographie qui est montrée à certains jeunes. Donc là, je vais vous parler de la pédopornographie qui est montrée aux jeunes. Alors, donc, la pédopornographie, c'est vraiment un problème parce que les enfants... sont directement impliqués, donc c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils pourraient peut-être, dans certains cas, ils se disent qu'ils pourraient peut-être être impliqués plus tard, ce qui leur peut leur faire peur, les dégoûter, les exciter, etc. En plus, des contenus illégaux peuvent être très sensiblement visibles, et si on regarde bien l'historique, on peut essayer de retrouver. Donc si on retrouve des historiques comme ça, on peut se dire que c'est les parents, donc ils peuvent aller en prison pour avoir visionné des contenus illégaux, alors que non, c'est l'enfant. Voilà, ça peut entraîner des troubles tels que par exemple la présexualité, donc l'envie de très tôt.
De faire quoi? Très tôt. Voilà, de faire des choses au lit.
Voilà, ou le dégoût total de toute expérience sexuelle. Et en plus, une étude a prouvé que vraiment la vue répétée de pédopornographie, donc par des enfants, augmente de 20% le taux de pédophilie. Donc en gros, il y a 70% de pédophiles qui ont regardé de la pédopornographie pour 30% qui n'en ont jamais regardé. Ou très peu. Voilà. En conclusion, un enfant de moins de 18 ans ne devrait juste pas regarder de pornographie parce que ça peut troubler et même le troubler et même alterner son comportement jusqu'à la fin de sa vie.
Manon ?
Il y a aussi une perte de confiance en soi parce que du coup, quand tu regardes ça, et comme avait dit Maëlle, tu peux aussi perdre confiance.
Parce que justement, un manque de confiance, parce qu'on voit des scènes, voilà, quand on regarde la pornographie, on regarde des scènes où l'homme est énorme et sec et qui fait son truc. Ouais. Un peu complexé parce que vulgaire et il y a un truc où ça dure 30 minutes, 40 minutes, etc. etc. Donc, dans ces cas-là, il faut aller se renseigner auprès des adultes. Alors, je ne demande pas à ce que vous me demandez à moi ou au prof de français, par exemple. Plutôt à la prof de SVT. On se retrouve pour la partie 2 de Popcorn. Donc on va commencer par la deuxième partie avec Manon et Léonore pour les expériences un peu bizarres au Japon. À vous deux les filles.
Alors, l'unité 731, c'est une unité par l'armée impériale japonaise entre 1932 et 1933. Officiellement, c'était dirigé par Shiro Ishii, qui se consacrait à la prévention des épidémies et les purifications de l'eau, alors qu'en fait, il faisait des expériences sur des humains, par exemple des vivisections sans anesthésie. Vivisection, c'est quand on fait une dissection sur un sujet vivant encore, et des recherches sur diverses maladies, comme la peste, le choléra et d'autres, en voulant les utiliser comme armes bactériologiques. Les expériences de bactéries ont été pratiqués au Manchukuo par largage aérien. Donc entre 300 000 et 480 000 victimes sont mortes. L'unité 731 est responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, parce qu'il tue des gens forcément, mais aussi crimes de guerre. L'État japonais, il ne reconnaissait pas son existence jusqu'en 2022. Donc en 1936, à Pingfang, l'unité est arrivée justement. Et elle faisait des expériences sur des prisonniers, des femmes, des enfants, des Coréens, des Chinois et des Russes fournis par le Kenpetai, c'est la police militaire. Donc c'est des prisonniers de guerre un peu. L'Empire chinois, il s'est étendu. Donc d'autres unités ont été ajoutées dans les villes qui ont été conquises. Elles faisaient partie des expériences. Et les activités de l'unité, elles étaient connues du gouvernement. Des films sur les expérimentations ont été aussi montrés au prince de cette époque-là, Takahito Mikasa. Un des frères fait référence dans son journal personnel, donc il était proche d'un des capitaines. Le prince, du coup, cousin de l'empereur. Il a visité l'installation lui-même en tant qu'officier de l'armée, et du coup, ça, il a rien dit. Les armes bactériologiques qu'il a vues, enfin, qui ont été produites par l'unité, ont été utilisées sur l'ordre de la personne qui a visité, contre les soviétiques en 1939 et contre les chinois de 1940 à 1945. C'était les ordres du chef d'état-major de l'armée, donc le prince, et les généraux de l'armée aussi. Les premiers cobayes, c'était des prisonniers condamnés à mort et détenus dans une prison, et des résistants capturés par la police militaire japonaise. Donc par la suite, les victimes, c'était des soldats chinois aussi, Enfin, du coup, est-ce qu'ils étaient des résistants, peut-être, ou des ou ceux qui menaient une révolte. Et des Russes communistes, retenus dans des camps et tout ça. La première unité de recherche de l'unité 731, Béligné, en banlieue sud d'Arabin, 1932. Son existence était connue grâce à l'évasion d'une douzaine de prisonniers chinois à automne 1934. À compter de 1936, avec la création de l'unité 731 et la direction du site de Béligné, les expérimentations s'étendirent aux femmes et aux enfants à qui on distribuait du charbon mélangé au chocolat. Enfin, c'est du charbon. Bah, si du charbon, c'est quelque chose de toxique. Puis, des prisonniers de guerre américains sont d'un camp. Ils étaient appelés Maruta. Ça signifie bûche ou bille de bois en japonais. Donc les paysans, ils croyaient qu'en fait c'était une gigantesque scierie qu'il avait fait. Qui croient que c'était une gigantesque scierie. Et du coup, tous les cobayes qui étaient amenés là-bas pour. Les paysans croient que c'était du bois en fait. Donc à leur arrivée dans l'unité, ils leur donnaient un numéro. Et c'était. Enfin, ils cessaient d'être êtres humains. Et ils avaient entre 20 et 40 ans pour la plupart. Bah, les femmes et surtout parce que les enfants, ils n'ont pas 20 ans. Des expériences sur le choléra et la peste en se servant des prisonniers. Les prisonniers, ils étaient vraiment dans des états même pas humains. Nombre de personnes mortes en Chine à la suite des expérimentations et de l'usage des armes bactériologiques par l'armée impériale japonaise s'élève à
plus de 580 millions, si je dis pas de bêtises. Il est possible que les méthodes de l'unité 731 aient été utilisées en Indonésie. Lors d'un essai raté et mis au point d'un vaccin contre le tétanos, 900 personnes moururent après avoir été vaccinées. Ahmad Mokhtar fut exécuté pour ce crime le 3 juillet 1945 par l'armée japonaise d'occupation. Mais sa mémoire a été réhabilitée par le gouvernement indonésien sous la présidence de Soeharto. Son assassinat aurait servi à masquer un crime de guerre et de responsabilité au Japon. Violence et agression sexuelle, les prisonnières détenues de l'unité 731 subissaient des grossesses forcées à des fins d'expérimentation torsionnaire, mettaient des expériences sur la transmission de maladies de la mère à l'enfant. Notamment le syphilis. Ils examinaient aussi la survie des fœtus et des liaisons sur les organes féminins, même si de nombreux bébés sont nés en captivité. Il n'existe aucun cas documenté de survivants à l'unité 731, y compris parmi les enfants. Probable que les enfants de prisonnières étaient assassinés après leur naissance ou que les grossesses faisaient l'objet d'un avortement. Si un homme prisonnier était en général victime d'une expérience précise pour ne pas risquer d'interférence, les femmes prisonnières servaient parfois pour des expériences bactériologie, physiologie, sexuelle, en tant que victimes d'agressions sexuelles. Après avoir effacé les preuves de ce qui s'était passé là, le personnel de Pingfan évacué en Corée du Sud, à Séoul, chacun avait reçu une dose de poison afin de pouvoir se suicider en cas de capture. Pour les soviétiques, une épidémie de peste suivit le départ japonais, provoquant la mort d'environ 20 000 Chinois. Au total, environ 400 000 personnes ont été tuées en raison de germes d'anthrax, choléra ou de peste que les membres de l'unité 731 avaient répandu sur les villages aux alentours.
Merci d'avoir écouté l'émission. On se retrouve après pour l'éphémérique du jour. Un petit mot pour la fin.
Au revoir.
Sayonara.